L'atelier littéraire est ce soir autour de la table Pierre Guyotat qui poursuit son œuvre autobiographique et qui, après Formation parue en 2007 chez Gallimard, propose aujourd'hui Arrière-fond chez le même éditeur. Marianne Alphand, qui connaît bien l'œuvre de Pierre Guyotat, les éditions Léo Cher reprennent aujourd'hui Explication, un entretien qu'elle a eu avec lui qui est paru il y a une dizaine d'années. Tiphaine Samoyau, qui est enseignante et écrivain, et Alain Nicolas, qui dirige les pages livres de l'Humanité. Pierre Guyotat, quand on vous a demandé quelle musique, quel disque on pourrait passer dans cette émission pour accompagner notre conversation sur Arrière-fond, vous nous avez dit que vous vouliez quelque chose ou entendre de la cornemuse mélancolique. Ce serait bien que vous nous disiez un tout petit peu pourquoi.
Non, j'ai dit la cornemuse ou bien entraînante ou bien mélancolique, ou bien les deux. La cornemuse entraînante ou du violon. À la musique écossaise,
hein, ouais.
Une partie du texte d'arrière-fond est, comment dirais-je, pour cadre, pour décor, la frontière d'Angleterre et l'Écosse. Voilà. Donc c'est une musique que j'ai entendue là-bas très, très souvent, qui est assez proche de la musique bretonne, ou de la musique, bien sûr, que j'aimais beaucoup à cette époque-là. Voilà, je trouvais que c'était mieux peut-être de prendre quelque chose de populaire plutôt que de choisir une des musiques qui sont citées dans ce livre.
Alors, après Formation, qui était le premier volet de ce que vous appelez au début du livre votre récit de formation, et qui était consacré à votre enfance, second volume, donc, qui est dédié à votre adolescence, ou plutôt, vous dites, à certaines journées de votre 15e année qui se sont déroulées entre juin et août 1955. On va entrer dans le détail de ce livre, de ce récit, disons, qui livre, entre autres, une explication de ce que vous appelez la branlée avec texte. Mais je voudrais vous poser d'abord une question d'ordre plus général. Il se trouve que par le plus grand des hasards, je suis en train de lire le journal, guillemets, de Daniel Cordier, qui s'appelle Alias Caracalla, et qui est la reconstitution du journal qu'il aurait pu tenir dans ses années de résistance, donc disons entre 40 et 44, quand il était secrétaire de Jean Moulin. Et la particularité de son projet, c'est que Cordier a écrit ce journal en restituant celui qu'il a été au plus près possible de la vérité historique, c'est-à-dire en se remettant dans la peau de celui qu'il était et qui ne savait pas ce qui arriverait le lendemain, et si c'est possible. Et c'est de cette restitution, je pense, qui fait en fait le caractère assez extraordinaire de ce livre. Et je me demandais si vous n'aviez pas un projet de ce type en commençant le texte, c'est-à-dire de restituer le tout jeune homme que vous étiez et l'univers très intense qui se forme alors dans son imaginaire.
Oui. D'abord, je voudrais dire que ce livre de Daniel Cordier est un livre magnifique et que Daniel Cordier est un homme magnifique, de toute façon, bien entendu. Et oui, bien sûr, j'ai lu ce livre très abondamment. Un livre qui laisse du reste une impression d'extrême tristesse, du reste, parce que c'est presque crépusculaire. Tous ces gens qui vivent sans vraiment vivre, qui se retrouvent. Le couvre-feu, la clandestinité, c'est absolument terrible. Terrible, terrible. C'est vraiment extraordinaire d'avoir pu tenir dans des conditions pareilles. C'est magnifique. Hein. Et il se trouve que nous sommes assez liés aussi, à ma famille, aussi à Daniel Cordier et à certains de ses compagnons aussi. Mais, comment dire, il faut dire aussi que pour ma modeste personne, je veux dire, cette espèce d'entreprise, si je puis dire, parce que toute œuvre d'art est entreprise, si je puis dire, l'entreprise a commencé avec Coma quand même. Coma qui a inauguré ce type de... Ce type, oui. J'ai choisi pour Coma, j'avais depuis très longtemps l'idée d'écrire ce livre depuis les lendemains de cette crise, assez longue crise, et puis l'opportunité éditoriale par Claude Fellou, ça a permis donc que je réalise ce texte. Donc c'est un peu ce texte qui est à l'origine des deux que vous venez de citer, bien entendu. Mais de toute façon, c'est une nécessité, comment dirais-je. Je l'ai dit souvent, je reste un auteur de fiction, si vous voulez. Je ne peux pas, comment dirais-je, je ne peux même pas écrire de souvenirs d'enfance. Ce ne sont pas des souvenirs d'enfance. C'est même pas une autobiographie, c'est une mise en fiction, quelque sorte, d'un personnage qui est moi, que je connais bien, mais que je mets aussi en scène dans d'autres textes plus directement fictionnels, si vous voulez. Je l'ai souvent dit, j'ai écrit des textes bien plus autobiographiques que celui-là. Mais cette veine, bon, quand je dis autobiographique, elle ne date pas de Coma non plus. J'ai toujours expliqué d'où je venais, comment je travaillais, etc. Ça n'a rien de... J'ai expliqué d'où je venais, j'ai expliqué dans littérature indiotique, par exemple, dans un long entretien, d'où je venais, comment j'avais commencé à écrire, etc. Donc tous ces textes sont une sorte d'amplification de ce que j'ai déjà... de ce que j'ai déjà écrit. Mais ce qui m'anime dans ce travail à chaque fois, c'est que même pour Coma, qui était peut-être plus proche, les fêtes étaient plus proches de la réalisation du texte, c'est de me reconstituer tel qu'il me semble que j'étais, si vous voulez, donc à l'époque de l'enfance et à l'époque de l'adolescence. Mais ça, j'y suis aidé aussi par ma facilité, disons, à faire de la fiction. Je suis habitué à créer des scènes, à créer des psychologies, même si j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de psychologie. Il y a des gestes qui impliquent un comportement profond, même une psychologie d'une certaine façon. Donc ce n'est pas pour moi une extraordinaire de me prendre moi-même
comme objet.
Oui, comme objet, si vous voulez. Mais c'est évidemment un peu plus difficile, parce qu'effectivement, il faut rester dans les limites. Je fais exactement comme en fiction, j'ai souvent expliqué que dans mes fictions, je ne dépasse pas, je fais comme n'importe quel fictionneur, je ne dépasse pas dans le discours, dans les faits, dans les actes de mes figures, ce que ces figures sont censées être et pouvoir produire, si vous voulez. Donc j'y suis habitué aussi à ça. Donc cette méthode, je me l'applique à moi-même. Mmh. À la fois, je me connais mieux, évidemment, est-ce que je me connais mieux, moi, que je connais mes figures, les figures qui me sont extérieures, hein, même si elles sont dures, apparemment irréalistes ou exceptionnelles. Je suis plus à même de me, disons qu'un biographe ou qu'une biographe, de me souvenir aussi de mes limites. C'est ça l'histoire. Ce livre, c'est aussi ça. Je me suis souvenu avant tout des limites de mon esprit, de ma compréhension du monde et de ma sensorialité aussi à l'époque. Hein. Je ne suis pas allé, je pense pas être allé plus loin. Même je suis même resté peut-être même en deçà, d'une certaine façon.
Le livre s'ouvre sur un rêve, Oui. C'est-à-dire qu'on est quand même déjà installé dans un espace où la réalité, elle oui. peut être, sinon mise en doute, du moins mise en rapport avec de possibles élaborations, imaginaires, etc. Mmh. Donc on est déjà, nous lecteurs, ailleurs que dans le contrat autobiographique classique okay. auquel on pouvait effectivement s'attendre dans Coma ou dans Formation. Et puis, l'écriture en est aussi très différente. Enfin, quand, là, c'est quand même l'impression brute du lecteur, c'est que on est dans une écriture qui est beaucoup moins classique, au sens vraiment strict du terme. Il y a, la langue en est différente, la syntaxe est parfois un peu bouleversée. Et puis, il y a aussi des disjonctions importantes d'un passage à l'autre. On est dans le fragment, des personnages ou des événements sont cités comme si on en avait déjà parlé, avec des relatifs qui ne renvoient à rien, par exemple, ou des choses comme ça. Et on arrive à avoir à être un peu dans une sorte de maquis où finalement c'est aussi la langue qui prend le dessus au bout d'un moment.
Bien que le temps ?
Oui, moi je. Enfin. Oui, on peut le lire de cette façon-là. Moi, je pense que le livre est très clair, est extrêmement clair, et se déroule d'une façon extrêmement limpide, comme une...
On est parfois obligé de revenir en arrière.
C'est possible.
On revoit...
Moi, je vous donne mon point de vue.
Voilà, on voit des démonstratifs, voilà. Ou comme si on avait déjà anticipé sur,
oui, enfin, ça, c'est une chose
sur ce qui se passe, et c'est quand même...
À laquelle tout le monde, la littérature nous a habitués depuis quand même une centaine d'années.
Bien sûr, bien sûr. Mais
je veux bien croire qu'aujourd'hui, ça puisse frapper...
Donc j'insistais sur la différence avec les
voilà,
deux...
Tout à fait, absolument. Vous avez tout à fait raison, bien sûr. Moi, j'ai plutôt l'impression d'une sorte de grand discours très interrogatif, mais qui coule comme d'une façon très régulière et très chronologique aussi. Tout est... Vous voyez ?
Marianne Alphand.
Évidemment, excusez-moi. Évidemment, quand je reviens en arrière, tout à fait en arrière dans l'enfance, je ne veux pas à ce moment-là, je peux me permettre, je me souviens que, si vous voulez, je mets simplement un espace, et puis à ce moment-là...
Non, mais c'est clair, il y a un moment où on sait qu'on est en 1955, voilà. Il y a un épisode daté de 1942, on sait parfaitement de quoi il s'agit, il n'y a pas de difficulté.
42 ?
Il y a un épisode avec les Allemands, ou quelque chose qui se passe en 42.
Oui, oui, bon, ça c'est dans Formation, je pense.
Oui, mais on
peut le retrouver, mais ça c'est la fiction ordinaire, hein. Je pense pas que...
À vous, Marianne.
Oui. Oui, il y a une dimension de quête ou d'enquête. Enfin, je vais revenir, mais juste avant d'en parler, je voudrais dire que par rapport aux autres textes à dimension autobiographique, et qui sont là depuis toujours, hein, Pierre Guyotat l'a rappelé, disons très souvent, entre deux livres, il y avait un accompagnement où il y avait des conférences, des communications, on parlera tout à l'heure.
Ah oui, exemple, ce que Jeannette appelle le paratexte, il y avait des sortes
de langage du corps, etc. Mais y compris quand Pierre Guyotat, par exemple, enfin plus récemment, parlait de la musique, enfin bon, qui a été quand même l'accompagnement de toute une vie. Non, ce qui rend ce livre très différent, je trouve, c'est que peut-être pour la première fois, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue en le lisant, on est vraiment dans l'atelier de l'artiste. Et quand on dit l'atelier, c'est comme lorsqu'on va... moi, je me souviens, ça a été un petit peu réarrangé au moment où l'atelier Brancusi a été déménagé au Centre Pompidou. Mais à l'époque où, autrefois, l'atelier de Brancusi était au Musée d'Art Moderne, qu'on arrivait, qu'on voyait ses billots, ses formes à demi ébauchées, etc. On voyait la jeunesse de quelque chose. On voyait des figures qui, quelquefois, étaient accomplies, quelquefois, étaient en cours d'accomplissement. Bon, donc ça, c'est cette chose tellement frappante d'être dans l'atelier de l'artiste avec l'émergence de ce qui sera la suite.
Histoire ces de grandes... jeunesse, au fond.
Voilà, toutes ces grandes figures. Mmh. Et puisqu'on parlait de l'effet de quête ou d'enquête, oui, c'est une enquête avec ce côté interrogatif, persistant, rythmant, de façon presque lancinante, ce texte. Mais au fond, La justesse de ça, c'est que l'adolescence, puisque c'est un texte qui, disons, raconte, ou enfin en tout cas s'enracine dans l'adolescence en 1955, au cours de l'époque de ce voyage en Angleterre, l'adolescence est une situation d'enquête, enfin bon, d'interrogation. Et donc, dans ce texte, il y a à la fois Pierre Guyotat qui peut-être revient sur ce qu'a été cette période, mais aussi en rejoignant cette enquête permanente de l'adolescence, c'est-à-dire enquête sexuelle, hein, toutes les questions qu'on se pose, l'enquête généalogique, qui suis-je, qui est mon vrai père, est-ce que je descends de Dieu, de mon père, etc., théologique, artistique, cosmique. Donc tout ça, au fond, s'imbrique d'une façon très, très étonnante.
Pierre Guyotat.
Oui, mais je ne sais pas que... Oui, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai.
C'est vrai que Marianne ne vous pose pas vraiment une question.
Non,
je
ne
pose pas une question, c'est une analyse. C'est une analyse très juste, tout à fait. Oui, c'est du reste très difficile de... L'adolescence est un âge d'abord très difficile en soi, et très difficile à rendre. Et du reste, beaucoup de personnes m'ont déjà dit que qu'ils avaient compris énormément de choses à l'adolescence en lisant ce livre. C'est l'adolescence aussi de quelqu'un, jamais l'oublier aussi, comme formation, était le récit de la formation de quelqu'un qui sera un artiste. Et qui sent qu'il pourra l'être. Mmh. Et déjà au moment d'arrière-fond, la décision est prise. Donc c'est pas une adolescence, comment dirais-je, je vais utiliser un mot, pas une adolescence ordinaire. C'est l'adolescence de quelqu'un qui se pose d'autres questions que celles que se posent les adolescents à cet âge tout de même, hein, avec déjà un souci de la forme, de quoi faire. C'est tout de même, disons que c'est fréquent chez les artistes, bien entendu. Enfin, c'est pas fréquent chez la totalité des adolescents, quand même. Il y a d'autres soucis à cet âge-là.
Oui, moi je l'ai lu tout à fait aussi comme Marianne Alphand, je dirais même un roman de l'adolescence, une fiction de l'adolescence, c'est-à-dire même si je reconnais la matière autobiographique, il y a quand même d'emblée la constitution d'un espace qui va être celui de la création, et qui s'appelle cet arrière-fond. Alors moi j'ai trouvé ce livre absolument somptueux, j'ai été vraiment très très frappée par ce livre, et j'aimerais bien essayer d'expliquer un petit peu pourquoi. Bon, dans ce que vous disiez, Pierre Guyotat, vous parlez d'un livre qui coule, fluide. Il y a cet été, hein, c'est un été, c'est un été de la vie d'un adolescent, avec ce que ça suppose aussi d'affranchissement par rapport à la famille. On part, tout le monde a cette expérience de partir en Angleterre. Bon, vous, c'est à la frontière de l'Angleterre et de l'Écosse, mais ça reste le voyage en Angleterre, de façon presque un peu paradigmatique. Il y a la plage, il y a le voyage en train, le ferry. Bon. Et donc, cette impression quand même de clarté, de la clarté d'un été. Et puis, en même temps, une très, très grande obscurité, qui est tout d'un coup la constitution de cet arrière-fond où s'inscrit le secret d'une écriture qui n'est pas l'écriture claire de la poésie montrée. Et donc il y a toute cette opposition entre ce qu'on écrit publiquement dans la clarté, dans le rapport encore à la mer, etc. Et puis tout d'un coup, quelque chose qui s'écrit dans un affranchissement total du rapport à la généalogie, même à la littérature antérieure, c'est-à-dire qu'à part... justement, quelque chose qui peut avoir à voir avec un pacte faustien. On n'est pas dans une référence directe avec les écrivains. Et je dirais que dans la continuité de formation, c'est comment on passe d'un être procréé à un être qui crée ou qui se crée lui-même. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord aussi avec l'idée que Marianne Alphand a évoquée d'enquête théologique. C'est une enquête théologique aussi sur... comment on devient créateur? Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de ça dans le livre? Et alors, encore, pour essayer d'expliquer, j'ai essayé de comprendre pour moi-même l'effet que ce livre avait eu sur moi, c'est qu'on y voit aussi, au cours de cet été, Et c'est ça que vous racontez aussi, c'est comment vont arriver les textes que vous appelez en langue, c'est-à-dire comment vont naître ces textes-là. Et on est, comme lecteur, dans cette lecture rétrospective par rapport au reste de votre œuvre, tout d'un coup dans cette espèce de montée, hein, comme il y a une montée de sève, mais aussi de sperme, etc., dans cette montée de la langue. Et je trouve que ça se sent incroyablement dans la langue. Donc il y a des passages d'un rythme, d'une beauté. Parce que ça aussi, il y a une enquête sur la beauté.
Oui, tout de même, oui. Il faut bien prononcer le mot, oui.
Il y a un passage que j'aimerais bien lire, parce que je l'ai vraiment relu plusieurs fois, qui m'a beaucoup frappée. Bon, évidemment, je le lirai moins bien que vous ne le feriez. Est-ce que vous voulez bien le lire ou...
Lisez-le. Je ne sais pas.
J'aimerais que vous le lisiez.
Oui, c'est dans le premier tiers du livre, c'est ça. Je le ressens autant que je ressens l'attrait de la beauté et le besoin de la transformer toujours. Pour bien créer, il faut rendre les armes devant le réel, se retirer devant la beauté, la regarder presque hébétée, la laisser agir en soi, vous endormir, et au réveil, la beauté est là sur ses pieds, mais elle est vôtre. Il y faut de la lâcheté, en somme, quand le philosophe et le savant avancent, eux, pas à pas. Mais quand une civilisation peut se défendre de son déclin, elle avance ses artistes. Oui, il y a une grande interrogation sur la beauté. Parce que je me pose forcément la question de la beauté plus profondément encore que peut-être d'autres adolescents même qui écrivent, puisque j'écris déjà des choses dont je sais que je ne sais pas encore, bon, je n'ai pas lu, je ne sais même pas qu'ils ont existé, ça, ni personne, je ne sais pas, je ne suis pas... en situation sociale ou scolaire, de connaître ces choses-là à l'époque. Donc je suis confronté à l'idée, à ces images qui me viennent dans cet arrière-fond, qui ne sont absolument pas des images qu'on me signalerait comme belles, si vous voulez. Donc il faut que je fasse avec ça, il faut que je force ma nature à accepter la beauté de ces scènes encore très vagues. Donc il faut que j'assume déjà le fait que ces choses sont belles. Et c'est une chose qui n'a pas cessé. Je suis toujours dans la même interrogation. Évidemment, maintenant, j'ai un poids d'œuvre qui fait que, si je peux dire, la chose est là. Mais... sinon, il faut toujours que je me pousse moi-même à assumer ce que j'écris, de toute façon. Et c'est pour ça que les lectures des textes en langue, surtout, sont des épreuves. Des épreuves extrêmement dures, finalement. Parce qu'il faut que j'assume, non seulement devant moi, mais devant d'autres, si vous voulez. Mmh. Et peut-être que mes lectures ne sont peut-être pas, elles, assez puissantes, assez audacieuses. Aussi audacieuse que le texte devrait les provoquer. Mais voilà, cette interrogation sur la beauté, elle court dans le livre tout le temps, je pense. C'est plus la beauté du paysage ou de la mer, de tout ça, même la beauté physique, c'est au-delà. Trouver beau ce que tout désigne, non pas comme l'est, mais comme presque invisible, d'une certaine façon, ou à ne pas voir. Et quand vous avez 15 ans, 14-15 ans, vous êtes confronté à ça, vous comprenez quelque chose de très profond, bien entendu. Et vous n'avez personne à ce moment-là pour vous expliquer quoi que ce soit. Maintenant, les choses apparaissent comme naturelles, mais il faut penser qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas la même permissivité, la même... déjà, de toute façon.
Ce qu'il faut dire, donc, c'est que au centre de ce livre, il y a... le récit de la mise au point, si je puis dire, de votre pratique ou de votre technique d'écriture, qui est liée donc à une pratique masturbatoire, mais dont vous expliquez de façon très très passionnante que ça n'est pas une pratique sexuelle, que ça n'est pas lié à la sexualité.
Non, parce que d'abord c'est très lié à certaines périodes, pourtant je ne manque pas d'élan sexuel à cette époque-là, bien entendu, à 15 ans. On est très... Mais je pense, comme je l'ai dit souvent, je pense que j'ai pensé très vite que cette activité, que ce plaisir-là, enfin, ce plaisir très relatif, très bref, c'est surtout le désir qui est un plaisir, que le plaisir très bref suivi, comme je l'explique dans un long flashback du début de la pratique dans la petite école où j'étais, la pratique sans texte au début, suivi donc d'une extrême, d'un dégrisement et d'une véritable épisode dépressif, si vous voulez. Donc sachant cela, ce n'est pas une activité, évidemment, que je pratique souvent. Je sais à quoi elle mène. Une fois que le liquide est sorti, je veux dire, il n'y a presque rien. Il faut donc refaire la chose, redésirer, si vous voulez. Ce n'est pas du tout, comme on l'a pu écrire, dans l'éjaculation, si vous voulez, que les images viennent. Pas du tout. Les images viennent avant l'orgasme, bien entendu. Parce que dans l'orgasme, c'est fini. C'est le plaisir complètement animal, qui n'a plus, animal entre guillemets, qui n'a pas de... qui n'a plus aucune créativité. Si vous voulez. La créativité, elle est dans la montée du désir et juste avant l'orgasme. Où là, on lâche les choses qu'évidemment, à cet âge-là, j'aurais été incapable de lâcher tout seul, si je peux dire, sans cet acte. Si vous voulez. C'est même intéressant, d'une certaine façon, de voir qu'on a besoin, comme d'autres ont besoin de l'alcool ou de la drogue, etc. Moi, j'avais besoin de ça. Et en plus, c'est plus profond que ça encore, c'est que je considérais déjà cet acte comme absolument dérisoire, comme indigne de l'état d'humain, de petit humain que j'étais. Non pas du tout indigne moral, mais indigne ontologiquement, d'une certaine façon, si vous voulez. Donc j'ai voulu très vite associer à cet acte quelque chose d'utile, à savoir écrire. Simplement écrire. Ouais.
Donc il y a la mise au point d'une sorte de rituel.
Que je ne pourrais pas le faire en peignant. Je ne peux pas le faire. C'est une activité. Il faut réfléchir à ça aussi. Ceux qui croient que je pratique toujours ces choses-là, que j'écris tous les textes depuis comme ça, se trompent totalement, bien entendu. Car on ne peut pas. Certains textes sont écrivables de cette façon-là. À cette époque-là, depuis, ça a totalement cessé. Tous les textes comme progéniture, on ne peut pas les écrire. Il faut les écrire à deux mains. Vous voyez, c'est tout à fait un tombeau, il faut écrire à deux mains, tout ça, c'est dans la mesure où j'ai tapé, en plus, ces textes sont dactylographiés. Donc, la simple consultation des archives montrerait que c'est une impossibilité. Donc, ces textes ont été écrits, si je peux dire, en tout bien, tout honneur, puisqu'il faut mettre un peu de morale dedans. Voilà. Mais c'est surprenant que ça compte. C'est tellement fascinant, cette affaire, que ça n'a pas créé des... que des sottises en France et des sottises partout. Partout, même, je ne sais pas, en Russie, aux États-Unis, au Japon, il y a eu cette espèce de... Parce que j'ai fait l'aveu un jour de cette chose-là, en 1971, dans un cadre très précis, du reste, où j'ai déjà parlé de pratiques révolues. Mais il n'y a rien à faire, ça continue. Parce que c'est excitant, bien entendu, j'imagine, d'y penser. Non, les textes sont faits vraiment d'une façon tout à fait... Même, je pourrais même dire, dans une chasteté totale. J'ai dit une fois que progéniture, je vais écrire progéniture, tout le temps de progéniture, je vais être d'une chasteté intégrale.
Oui, vous racontez intégrale. Ça, Marianne Alphand, dans oui. le texte. Et vous dites même, écrit contre la fatalité sexuelle.
D'une certaine
sexuelle,
façon, voilà, mais oui, ouais. Tout à fait. Ouais. Donc ça va tout à fait quand je n'ai plus besoin de tout ça. Parce que cette montée du désir et de l'orgasme m'a fait trouver progressivement dans l'adolescence, post-adolescence, une voix, si vous voulez, une voix VOIX. Non seulement une voix VOIX, mais une voix, c'est-à-dire une langue, assez rapidement une langue. Donc une fois la langue trouvée, la base de la langue, parce qu'elle a évolué depuis bien sûr, la trouvée, je n'ai plus besoin de ça, si vous voulez. Et je n'ai plus besoin de cette excitation-là. C'est tout à fait... On voit bien, quand on lit les livres attentivement, on ne peut pas considérer que, même si effectivement le désir revient sans cesse, mais ça c'est la loi de la vie. Le désir revient sans cesse. Sans cesse. Le désir qui revient même abstraitement, sans cesse, si vous voulez. Pas besoin d'éprouver des sensations particulières.
Alors, Nicolas.
Oui, on voit bien d'ailleurs dans le livre le souci de... d'abord de conserver la maîtrise du processus et à tous les niveaux. La distinction de cette pratique avec celle d'un rapport avec autrui. Et vous dites à un moment, je ne veux donner à personne je ne veux abandonner à personne le corps qui enveloppe et protège ma poésie. Oui. Et c'est quand même extrêmement, extrêmement clair de ce point de vue-là. Alors, l'idée d'abord, rapport entre le corps et le texte considéré comme une enveloppe et contenu, ce qui est quand même évidemment assez frappant. On comprend bien la lumière de ce qui est dit, mais en même temps, c'est aussi la volonté, vous le disiez à un moment d'ailleurs, vous écriviez, de mener le vers, de penser à la rime, etc. Donc il y a quand même toujours la question d'un projet, d'une maîtrise, enfin comme vous le disiez d'ailleurs, c'est la formation d'un écrivain.
Marianne Alphand.
Tout à fait.
Oui, il y a cette on ne peut pas dire permanence, mais enfin, en tout cas, c'est un peu aussi un des fils conducteurs d'arrière-fond, c'est l'adolescent qui bande, le sexe qui lève. Enfin bon, il y a toutes sortes de termes pour désigner ça. Et au fond, la question, c'est que veut le désir ? Est-ce qu'il veut une femme ? Donc, la présence de cette jeune fille qui est là au bord de la mer comme une espèce de figure féminine, comme un choix possible. Est-ce que le sexe est tendu vers le garçon, l'autre garçon, ou est-ce qu'il est tendu vers vers l'écrit, vers la production d'écrit? Et c'est, il y a une scène qui est très très frappante, je trouve, où Pierre Guyotat voit de dos les trois adolescents qui sont ses compagnons de l'été. Et au fond, à ce moment-là, ils sont déjà, eux trois, dans quelque chose qui est l'avenir d'une sexualité normale, enfin disons, pour aller vite. Et lui, à ce moment-là, sait qu'il est dans un autre monde. Très belle scène de bifurcation, de choix décisif. C'est pour ça que ce livre arrière-fond, au fond, c'est un livre initiatique. Hein. D'ailleurs, toutes ces scènes prodigieuses qui sont traversées comme ça par l'adolescent désirant sont des scènes initiatiques. Que ce soit, je ne sais pas, enfin, on verra qu'il y en a une quantité, mais ça commence avec la vision d'un inceste dans l'arrière-cour d'un fish and chips, l'enfant violé dans la ferme, la scène où les adolescents se couchent sous un bélier, enfin bon, c'est des scènes absolument mythiques ou épiques, où la petite fille mutilée avec une main en moins, l'enfant a... Alors, c'est cette scène qui est dans la deuxième partie du livre, où Pierre Guyotat et l'adolescente arrivent dans une famille avec la mère malade, les deux enfants adolescents qui la veillent en quelque sorte, et puis un petit enfant qui a une sorte de pagne en papier crépon. Bon, on traverse des scènes inouïes qui sont comme des scènes de désirées ou comme des scènes qui orientent le désir vers ce qui va être, au fond, la production du texte.
Oui, puisque, au fond, il refuse les avances d'un adolescent très entreprenant.
Oui.
Et il y a une scène assez drôle aussi avec une toute jeune fille. Il ne pense qu'à ça. Ils sont ensemble sur la plage. Et puis, il n'arrive à lui dire finalement que, comme tu as de belles mèches, et il ne parvient pas à l'embrasser. Donc c'est très étonnant, c'est-à-dire que c'est une façon d'expliquer. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est la bifurcation ne se fait pas là. Et cette scène est formidable aussi.
Formidable, oui.
Tiffaine.
Oui, je voudrais juste dire quelque chose. J'ai réfléchi aussi à cette question de l'initiation. Beaucoup de textes sur l'adolescence, il y a cette dimension initiatique. Et en même temps, j'ai trouvé qu'il y avait une grande différence avec un récit d'initiation, dans la mesure où l'adolescent contrôle
énormément. Oui,
il s'initie lui-même. Oui. Il n'est pas soumis à une série d'épreuves extérieures. Il les construit en même temps qu'il les vit. Et il y a une force de l'image qui fait que, on ne sait jamais finalement si on est, c'est vrai que comme l'a rappelé Anna Nicolas, le texte ouvre sur un rêve, on ne sait jamais si on est dans une réalité à laquelle serait confronté l'adolescent ou si elle est construite par son regard. Oui. Mais c'est ça, elle est construite par son regard. Il y a des scènes qui sont... Enfin, pour moi, très cinématographique, j'ai trouvé qu'il y avait une construction de l'image par le regard qui était vraiment stupéfiante. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il y avait une différence avec un récit initiatique de ce point de vue-là.
Oui, c'est une auto-initiation.
Voilà.
Oui.
Et même, j'aimerais vous poser une question, Pierre Guyotat, dans le rapport à la religion. J'ai eu l'impression aussi que l'adolescence, c'était le moment où tout d'un coup, on pouvait s'inscrire dans la religion en étant dans une position par rapport à elle, alors que l'enfance serait un moment où le sacré se donnerait un peu comme une sorte de généralité, serait là tout le temps, et que tout d'un coup, l'adolescence, c'est le moment où on s'affronte à Dieu, on s'affronte à la religion, on cherche sa place dedans, et où tout d'un coup, ça devient une question, justement, alors que le sacré de l'enfance interdit ou n'oblige pas à poser de questions par rapport à elle. Oui. Parce qu'il y a une très forte présence de la religion, et en même temps, de la religion comme religion catholique, comme dogme, comme, et non plus comme mystique, je dirais.
Oui, surtout une présence des figures de la théologie aussi. Oui, du Dieu créateur, du Dieu rédempteur, du Dieu créateur considéré comme, je ne dis pas comme un rival, à la fois qui est comme une sorte d'abstraction qui est utile pour, pas pour rejeter le Père, mais pour, le Père est comparé au... Le Père est mis en compétition, en comparaison avec le Créateur, si vous voulez. Et aussi, moi, j'éprouve aussi très tôt, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure sur la beauté, enfin, pas le laid, mais le cruel, ou je ne sais quoi, qu'il faut assumer comme beau, c'est la question de la création.
Oui.
Car toute l'enfance, on nous enseigne que le monde est donc créé en 7 jours, ce qui est... C'est un temps qui reste dans la mémoire, quand même, quand on est élevé comme ça, bien entendu. 7 jours, c'est important. 7, le chiffre 7, les chiffres impairs deviennent très importants, et ils le seront beaucoup dans tout ce que j'écris, du reste. Il y a très peu de chiffres pairs, et il y a ce chiffre impair, il y a un temps, la semaine, qui correspond très bien, du reste, au temps de l'enfance. Un enfant ne voit pas au-delà de la semaine. D'un dimanche à l'autre, d'une sortie à l'autre, etc. Donc c'est tout à fait, c'est bien, ça correspond parfaitement. Après, évidemment, toutes ces barrières temporelles craquent, bien entendu. Et puis il y a cette confrontation à la création divine.
Oui, qu'est-ce que c'est que d'avoir été créé créateur ? Enfin, il y a une phrase que je voudrais citer que j'ai trouvée aussi.
Créé créateur. Oui. Et d'où, comme j'ai déjà, moi, je sais déjà un peu ce que c'est que créer une œuvre, puisqu'on me le dit. Moi, on désigne ce que je fais, mes amis ou les pères que je montre les poèmes désignent ça comme une création. Sinon, je n'aurais pas l'outrecuidance à l'époque, à 15 ans déjà, de dire que je suis un créateur, si vous voulez. Le mot ne me vient pas beaucoup à l'esprit, parce que le créateur, c'est essentiellement, c'est évidemment Dieu. Mais c'est vrai que il y a une dimension un petit peu prométhéenne aussi, c'est vrai. Il faut voler une partie de ce feu-là. Et il y a aussi dans le... Comment dirais-je? Et aussi le monde change aussi. Vous parliez tout à l'heure d'un monde construit, un monde qui se construit. C'est ça aussi la grande différence avec une adolescence ordinaire, c'est que l'adolescence de celui qui va être peintre ou autre, etc., ou musicien, bien entendu, elle est, comment dirais-je, dès l'adolescence, le monde est structuré. Il est structuré musicalement, il est structuré picturalement, il est structuré par des mots, par un système fictionnel, etc. Vous voyez, les espaces que je vois, ce sont des espaces qui sont déjà, qui sont à la fois naturels, oui, mais en même temps, beaucoup déjà transformés, non pas parce que j'en fais déjà, mais parce que je sais que j'en ferai. Si vous voulez. Et les figures aussi qui se meuvent dans ces espaces sont déjà des figures annexes ou possibles d'une fiction future. Le monde devient un, un espace fictionnel, ou épique, disons, parce que tout de même, l'épopée est très importante, du reste, aussi bien dans Coma, du reste, je trouve, que dans... Du reste, la lecture, Patrice Chéreau l'an dernier à l'Odéon faisait bien apparaître le côté épique, que moi, je ne voyais pas encore bien, et à faire apparaître ça. Et ça n'a pas été sans impact, sans doute, sur la poursuite du texte, car je me ressens, moi, plutôt comme un poète épique. Disons, j'ai toute raison de le penser avec des livres comme Tombeau et autres, et même comme Progéniture. Je ne me sens pas comme un lyrique ou comme un... Et je me suis senti comme ça très tôt. J'allais plutôt vers Homère, vers Virgile, que vers les lyriques, si vous voulez, assez rapidement. Donc un monde organisé, l'épopée organise un espace, des distances, très important les distances. Vous parliez du cinéma tout à l'heure, très important les distances. D'autant qu'il y a la question de ma myopie à l'époque, qui est importante et qui est importante dans le texte, et qui donc change le monde selon que j'ai... Enfin voilà, il y a toute cette... les lunettes étant presque comme une sorte de lunettes d'accommodement de la fiction, quelque sorte. Et en même temps, quand j'ai les lunettes, le monde est terne, si vous voulez. Quand je n'ai pas mes lunettes, je vois moins bien, je vois pratiquement pas, mais au moins tout est naturel et tout a son éclat, même si c'est un éclat brouillé. Et ça a été un problème aussi, c'est un grand problème de mon adolescence, cette mauvaise vision. Enfin, cette mauvaise vision. C'est une vision qui a peut-être changé ma façon de voir les choses aussi. À la fois de les voir de très loin, et de près de les voir absolument. D'une façon autre aussi, la myopie, c'est ça. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un lien entre la myopie et le sens épique. C'est pas impossible. Moi, je ne suis pas un être épique du tout, personnellement. Donc, je pense en tout cas.
Je voulais revenir aussi à la l'époque, question religieuse, mais peut-être de façon différente. Je me souviens que au moment de la lecture de Coma, on avait été quelques-uns à penser que ça pouvait se lire comme une vie de saint et que c'était une dimension très importante de ce livre. Et il me semble que de la même façon, ici, dans Arrière-fond, en particulier à cause de la dernière scène qui est problématique, enfin, qui est difficile à lire, qui est terrible. Et je me disais qu'on pouvait y voir... quelque chose de l'ordre, ces mystiques du Moyen-Âge qui recherchent l'abjection et qui atteignent à la sainteté à travers l'abjection, l'ordure, les plaies, la purulence, etc. Oui, oui. Et je me disais que voilà, qu'il y avait une recherche de cet ordre chez vous.
C'est pas vraiment une recherche à cette époque-là, c'est une audace. Voilà, il faut passer par ça.
Une audace.
Il faut peut-être passer par ça. Mais je ne recherche pas, je ne suis pas... J'aime bien ce qui est pourri, oui, ce qui sent, j'aime bien ce qui sent. Dans la nature, partout, mais comme tout le monde. J'aime bien les... Vous connaissez cet épisode entre Goethe et Schiller. Schiller avait des pommes pourries dans son... Schiller, pour je ne sais quelle raison, j'en sais rien, avait des pommes qui pourrissaient dans son... Enfin, dans les tiroirs de son bureau. Et Goethe vient un jour, Schiller est absent, et Goethe ouvre les tiroirs, et tombe sur les pommes pourries. Goethe est effrayé. Moi, j'aime bien ce qui vit, ce qui pourrit, ce qui s'éteint, ce qui... J'aime bien le voir. Je ne vis pas dans le pourri, mais j'aime bien le voir, si vous voulez. J'aime bien le voir. Mais j'aime pas forcément, comment dirais-je, d'abord, c'est une réalité de la vie. Le monde, la pourriture occupe, une quantité énorme du territoire humain. C'est la pourriture des ordures, les animaux pourris, les gens pourris aussi, les gens pourris, les gens qui pourrissent.
Le sang, je dis, qui tire aussi.
Oui, le sang, bien sûr, tout ça, c'est une réalité. C'est une réalité que je n'ai pas forcément vue à l'époque. On voit bien les écoulements, tout ça, le sang, bien entendu. Il y a déjà une fascination, si vous voulez. Mais ce n'est pas dans ma nature, si vous voulez. Mais j'y suis contraint, parce que je suis un épique aussi, parce que c'est la réalité. C'est une réalité puissante, la pourriture. les mouches, les rats, tout ça. Les...
Jusqu'à la dépouille d'une chienne putride.
Tout à fait, oui, c'est bien sûr. Mais c'est très fascinant quand on est enfant et quand on est, et quand on est adolescent encore, et après, même après, c'est bien sûr. Donc l'épreuve consiste à approcher le plus près, et presque nu de ça aussi. Mais je n'ai pas une recherche, disons, mystique de cet ordre. C'est... Encore une fois, ça doit servir à quelque chose. Hein. Chez les mystiques donc, que vous évoquez, ça servait... bon, oui, du reste, il y en a eu aussi au XVIIe, aussi, des gens comme ça, qui oui. vivaient... comment s'appelait-elle ? Je ne me souviens plus très
Madame
bien.
Guyon. Madame Guyon.
Non, mais aussi une autre personne de Madame Guyon, qui allait même beaucoup plus loin, elle, vraiment. Et aussi, c'est aussi une chose très chrétienne, aussi, l'approche de ce qui pourrit, l'approche du malade, l'approche de la pourriture, c'est une chose absolument chrétienne. Moi, j'ai été élevé dedans, avec évidemment la mise à distance. Mais tout de même, vous voyez, le prêtre ou la sœur ou la religieuse, ce sont les êtres qui vont vraiment là où ça pourrit, gens meurent, où les gens pourrissent. Mmh. Sur pied, si je peux dire. Ça continue du reste.
Ce que je me disais, c'est une sorte d'inversion de la beauté ordinaire, puisque ce que vous appelez l'arrière-fond, il y a un vocabulaire très particulier, oui. du bordel, des détritus, des odeurs, des étrons, l'esclavage, tout ça.
Mais ça, disais... après, oui, après. Ouais. après. Là, il y a très peu... dans le livre, il y a la constitution de ce... La constitution encore très, très vague, hein. De ce qui deviendra après le bordel de progéniture ou d'autres, hein, ou les bordels de progéniture, qui n'ont rien à voir avec des bordels ordinaires, que je ne connais pas. Voilà encore une légende qu'il faut supprimer, c'est que je ne suis jamais entré dans un bordel, a fortiori un bordel de garçons. C'est extraordinaire. On a voulu absolument... Je me souviens en Angleterre, une fois, un journaliste qui me forçait à dire que j'avais fréquenté... Voilà. Fréquenter, j'ai été obligé d'infirmer, mais avec violence, parce que ça devenait une affirmation. C'était impossible de penser qu'on puisse avoir cette imagination encore pour aujourd'hui, avec quelques éléments, créer, c'est ça, la fiction. Avec quelques éléments, on crée une...
Oui, simplement, il y a juste dans cette initiation, il y a aussi la volonté, enfin, d'être capable d'employer certains mots, de savoir à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils veulent dire, le mot jouissance, le mot femme. Vous dites à un moment, je n'ose pas employer le mot femme pour parler de cette jeune fille bon, qui est une femme, en fait. Mmh. Et puis, la même chose avec la façon de parler des parties du corps. Bon, on parle au début du sexe, en parlant de la femme. Et puis après, on parle de la nature, par exemple. La nature, le mot arrive dans le texte.
Oui.
Voilà. Et il y a une sorte de... Oui, bien sûr. Voilà, il y a une mise en place un peu d'un vocabulaire du corps qui est en train de se constituer.
Oui, oui.
Et qu'on suit presque en direct quoi, en lisant le livre. Ça, c'est tout à fait passionnant.
Et avec la langue étrangère. Moi, j'ai trouvé que c'était aussi très intéressant le travail avec l'anglais et coq, et puis aussi blessed, qui veut dire béni, mais dans lequel vous entendez blessé.
Oui, parce que tout ça aussi, ces séquences de Grande-Bretagne, pour être plus large, les Grande-Bretagne se font dans le pays où on parle évidemment l'anglais, bien entendu. Et un anglais, en plus, un peu déformé, accentué, et puis aussi transformé. Je veux dire, la langue écossaise qu'on entendait dans les fermes partout était assez différente, hein. Plus proche de la langue de Shakespeare, du reste, la vraie langue de Shakespeare, que de l'anglais du 19e. Donc il y a toujours cet arrière-fond de langue qui est présent, parce qu'on parle anglais, hein. On parle anglais. Moi, je parle anglais, eux, quelquefois, parlent... la petite fille, au début, fait une longue tirade en français pour essayer de... pour me plaire, pour... montrer qu'elle... voilà. Il y a tout ce jeu aussi avec les... Mais il y a... oui, c'est ça, la découverte des mots. Et c'est une chose étrange parce que dans ce livre, tout est vrai. Tout est vrai. Ces choses-là se sont passées. Je leur donne une ampleur, évidemment, épique, parce que c'est ma nature, si je puis dire. Mais Les mots, j'ai dû certainement les utiliser. Même le mot nature, j'ai dû certainement l'utiliser. Mais vous savez, les choses ne sont pas forcément comme souvent les journalistes le voient. C'est-à-dire que on peut très bien utiliser ou savoir quelque chose et, à 5 ans et puis l'oublier pendant 10 ans ou pendant même 30 ans. Donc on peut, adolescent, trouver des mots qui disparaîtront après, pendant 10 ans, 20 ans, et qui réapparaîtront dans des textes de la maturité, par exemple. Donc ce mot de nature, c'est un mot, je suis sûr de l'avoir entendu, lu quelque part. Après, je ne m'en suis plus occupé, je ne l'ai plus utilisé. Je l'ai repris après dans des textes récents, etc., par exemple. Mais c'est ça, c'est un livre de découverte. Je me découvre moi-même aussi dans ce livre, si vous voulez. De toute façon, je l'ai écrit de cette façon-là, je l'ai dicté, sans vraiment, avec une intention générale, si vous voulez. Mais j'ai laissé faire, comment dirais-je, l'inconscient, d'une certaine façon. Oui, tout à fait.
Maria ?
Oh, je voudrais...
Je ne peux pas dire que ça m'est normalisé, du reste, depuis. Pas du tout.
Je voudrais juste dire quelque chose sur la scène finale, parce que ça rejoint un peu aussi ce que disait Tiphaine Samoyo tout à l'heure. Il y a une grande lumière dans ce livre, c'est l'été, avec des scènes d'été qui sont qui baignent comme ça dans une sorte d'enchantement, mais qui est déjà, où se creuse déjà quelque chose de terrible, avec des scènes entrevues, reconstituées, etc. Et la scène finale, elle est nocturne, c'est le retour à la maison, c'est à Bourg-Argental, avec une scène de nuit, d'adolescence, entre le calvaire et la croix, la grande croix du village et la grande poubelle. Et là, on est dans quelque chose qui est... je ne sais pas comment le qualifier, parce que effectivement c'est terrible, comme vous le disiez, Pascal. C'est une épreuve, et en même temps c'est d'une grandeur et d'une puissance tout à fait rare.
C'est vrai.
Oui, j'ai présent des instruments, des instruments de la médecine aussi.
Des instruments de médecine, prier au Père.
Parce que tout est toujours, la moindre scène est toujours. Est toujours, si je puis dire, presque cosmique aussi. Elle est toujours, elle n'est pas seule. Il y a des éléments d'autres scènes qui sont dedans. Tout est pris en compte. Si vous voulez. Mais ça, c'est l'esprit poétique qui devant quelque chose voit tout ce qui voit l'histoire de cette chose, son futur même. Et puis tout ce qui l'entoure, si vous voulez. Oui. Et il faut que tout serve toujours. Mm. Non seulement il faut que la branlée serve à quelque chose, au texte, mais il faut que tout ce qui existe autour de la scène, dans le réel, serve. C'est-à-dire il faut que les routes soient là, il faut qu'on sache les routes, la direction des routes, à quoi elles servent. Il y a des instruments de petite chirurgie dans le cabinet de mon père là-haut. Il faut qu'ils servent, c'est impossible qu'ils ne servent pas. Il y a la nuit, il y a le car qui... ce petit car allemand qui passe avec cette famille allemande, etc. À ce moment-là, il y a l'évocation de Faust, des femmes de Faust, les trois, qu'on appelle les trois femmes grises de Faust, du deuxième Faust, oui. Qui sont là, parce que je le lis à ce moment-là, je lis Faust à ce moment-là. Entre 14 et 15 ans, et je lis le deuxième Faust, et ces trois figures, la nécessité, le souci, etc., auxquelles j'y ajoute, moi, les femmes, parce que ce sont des femmes qui tiennent, ce sont des femmes déjà d'un certain âge, qui tiennent ces bordels, ces vagues bordels que je commence à imaginer. Des femmes donc qui ont déjà peut-être des cheveux gris, qui sont donc comme les femmes grises, du deuxième Faust, auquel j'ajoute justement la prostitution, l'avidité, etc. Donc aussi les textes, aussi les grands textes doivent servir, ils doivent être là aussi. L'histoire aussi avec cette famille allemande qui traverse de nuit, parce qu'à l'époque c'est encore dangereux pour les Allemands de traverser certaines zones où il y a eu des maquis, des maquis récemment, naguère, de les traverser de jour, si vous voulez. Donc l'histoire est là, l'histoire récente est là. Mais c'est normal, c'est un texte normal. Tous les textes doivent être comme ça, si vous voulez. Parce que dès qu'on écrit le monde arrive avec ce que vous, avec vous. C'est pour ça que c'est difficile de se mettre au travail, parce que vous savez que le monde va venir à vous, tout, presque tout. Presque tout va venir à vous, ce que vous connaissez va venir à vous. Il faut leur assumer ça.